Le vendredi, on prend cours de cuisine sur France Bleu. Il n'y a rien qui rime en i. Donc, on s'en... Hein ?
Oui, non.
Avec nos experts, on réunit autour de la table. Je ne sais pas si l'auditeur, enfin si les auditeurs, vous mesurez quand même la chance qu'on a d'avoir tous ces experts culinaires, que ce soit en France, mais j'ai l'air surtout en Lorraine. Parce que nous, on a des experts qui sont quand même capables de... Alors là, par exemple, vous avez le petit cours de cuisine. Sans tout le temps parler de ce qu'ils fabriquent eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on peut avoir des recettes, on n'est pas dans la promo quotidienne, c'est vachement important ça, hein. Vous partagez votre savoir sans vraiment de contrepartie, hein. On peut quand même pas en parler hein, quand même. Ben
c'est, oui, puis ça fait partie de la transmission, transmission des savoirs de génération en génération.
On est comme ça nous à France Bleu, on aime bien ça. Alors on a Philippe Larreul avec nous, notre chef, démonstrateur de la maison de Buyer, maître cuisinier de France et aussi chef de l'émission, hein. En même temps, il faut quand même le dire. Parce que c'est quand même lui qui nous dit sur WhatsApp de quoi qu'on cause.
Ouais.
Hein, c'est vrai. Hein,
vous avez quand même réussi à faire...
Oui, je l'ai fait inverser de sujet. J'ai voulu marquer un peu ma présence. On a aussi Clotilde avec nous, Clotilde Mangin. Alors Clotilde, rappelons-le, est sommelière. Vous nous rappelez ce que c'est sommelière pour les auditeurs qui débarquent?
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Alors une sommelière, c'est une personne qui a vocation à faire les achats de boissons dans un restaurant et qui va se faire plaisir sur les accords boissons et vins. Et boissons aimées. Je dis boissons parce qu'aujourd'hui, le métier de sommelier est beaucoup plus large que simplement proposer des accords autour du vin. Mais on le fait autour du café, on le fait autour de boissons sans alcool, de thé, d'infusion, de jus de fruits, kombucha.
Vous avez surpris souvent nous parler thé ou même l'alcool japonais.
Le saké.
Ouais, le saké, là, c'est vrai.
Voilà.
On a M. Edouard, notre boucher. Alors, M. Edouard, voilà, c'est notre viandologue.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Bonjour M. Edouard,
docteur
au marché Escote central, au marché central de Nancy. Grand défenseur avec nous de la fameuse saucisse Lorraine, dont on rappelle qu'elle n'est pas qu'une pauvre saucisse à cuire, mais notre saucisse à toutes et tous, c'est la saucisse de la Lorraine.
Oui, hein, tout à fait.
Qui est fumée, qui est super bonne avec, saucisse lentille, petite patate, des pâtes, enfin des trucs
avec une soupe, dans une soupe.
Ouais. Elle est quand même vache, elle est un peu comme Lorrains, elle est accommodante.
Ouais,
saucisse.
Elle va avec
elle pas. Hein,
elle va avec tout.
Ouais, on peut en mettre un peu partout.
Imaginez-la couper dans un risotto. Ou des chips de saucisse Lorraine pour mettre au-dessus du risotto.
Ouais. Hein, non, mais on la défend parce que moi, j'ai remarqué ça. On me dit toujours, vous êtes chauvin. Mais j'ai remarqué qu'on la défendait pas plus que ça, alors que très peu de régions ont une saucisse.
En même temps, si sur chaque France Bleue, on n'est pas chauvin un peu de sa région, c'est à quoi
oui, mais il y a quand même des gens qui me le... Pas me leur proche, mais presque. Hein. Oui, la saucisse Lorraine, vous en faites un peu trop. T'as envie de dire, non.
Alors
non.
Quand elle est mise en avant, et bien mise en avant, une fois Clotilde, son mari m'en avait ramené une, ils avaient fait comme une tarte comme ça, avec des pommes de terre et en rosace, comme ça, avec de la saucisse à cuire en tranches dessus. De la saucisse Lorraine, pardon. Vous voyez comme quoi. Ouais.
Voilà.
Pardon. Non, mais c'est un réflexe qu'il faut qu'on ait. C'est saucisse Lorraine et en dessous saucisse à cuire. Parce que sinon, on va se retrouver avec des clients qui vont dire on n'avait pas des saucisses à cuire.
Non, on a carrément enlevé parce que la morteau, on ne met pas à cuire en fait. Hein, et vous avez complètement raison. Donc on l'a enlevé le à cuire. On sait bien que c'est à cuire. Donc, c'est vraiment saucisse Lorraine.
Saucisse Lorraine. Allez hop.
Voilà.
D'ailleurs, on a un peu manqué à notre voix parce qu'on devait en parler une émission sur au moins toutes les émissions. Alors il est vrai que c'est plus compliqué quand on fait la chantilly.
Et là, avec les flancs, aujourd'hui, on va faire comment?
Alors on fait les flancs aujourd'hui.
On peut faire une chantilly. La saucisse.
Mais c'est pas un peu du gâchis?
Non. Vous mettez ça sur une soupe, un velouté de potiron, un velouté de lentilles, un potager Zahu avec une chantilly à la fin, comme ça, comme on met une crème, mais une chantilly parfumée à la saucisse Lorraine, 2-3 chips de saucisse Lorraine, c'est bon.
Chantilly sans sucre.
C'est pas le thème du jeu.
T'as un glacier comme ça, je ne sais où, en Bretagne, qui fait de la glace avec tout. On pourrait peut-être lui suggérer la glace à la saucisse Lorraine. Pour sa minorité Lorraine qui vient en vacances. Le flan, c'est le sujet du jour. On va en parler avec vous. Philippe va nous donner des idées de flan. Est-ce que ça va pour le vin, le flan?
Oui, on va trouver.
Passe.
Tout passe. Toujours contente, monsieur. Et il va pas nous faire un flan, le chef.
Non, mais c'est bien, c'est la vinaigrette, ça. La vinaigrette, elle n'aime pas. On n'aura pas de béchamel, hein, puisque Philippe, la béchamel, il trouve c'est trop lourd.
C'est quand même paradoxal.
Bien compris, voilà. Est-ce qu'on peut avoir un flan avec un peu de viande dedans, ponctuellement, pour faire marcher le commerce? Parce que les charges, tout ça.
Oui. Un petit gâteau, un gâteau de foie blond.
Un quoi?
Un gâteau de foie blond.
Ok, bon, j'ai pas compris, mais je vais découvrir. Bah, ce sera dans un instant. Vous restez avec nous sur France Bleu, sur l'application ici et sur francebleu.fr. Chaque vendredi, c'est le cours de cuisine de France Bleu. N'ayez pas peur, on n'est pas là pour vous traumatiser avec la cuisine, non. On est là pour vous donner des idées.
Voilà, tout à fait.
Et alors, on a avec nous Philippe Larvel, le chef de la maison de Buyer, maître cuisinier de France, qui a longtemps, rappelons-le, tenu l'auberge du Val-Joli au Valtin, qui donc va nous donner déjà ce que c'est qu'un flan. C'est quoi de ça, un flan ?
Alors, un flan, c'est un aliment fait cuit au bain-marie, principalement. Les éléments principaux sont les œufs et le lait.
Ah ouais, c'est ça, c'est le principe du flan.
Voilà.
Ouais.
Et après, il y a des flans salés, des flans sucrés. Alors, il y a des flans qu'on appelle flans, mais il y a des flans qu'on va un petit peu... améliorer ou qu'on a l'habitude, par exemple en dessert, une crème caramel, c'est un flan. En fait, c'est un flan.
La crème caramel. Ah ouais.
Voilà, tout à fait.
La crème brûlée, c'est une sorte de flan.
C'est pas tout à fait. C'est pas tout à. Ah, ouais, enfin c'est entre le flan et la crème. Et la crème anglaise.
Brûlée. Pardon. Ok.
Mais oui, la base, c'est un flan. Mais si vous faites un clafoutis, là on n'est pas encore dans
un clafoutis, dans c'est la un flan.
Bah, c'est un appareil à flan, donc c'est un flan.
C'est une sorte de flan.
Mais que vous n'aurez pas besoin, puisque vu que la texture est différente. En fait, le principe de cuire dans un bain-marie, c'est pour éviter les bulles d'air à l'intérieur. Qu'est-ce qui est beau dans un flan, c'est quand on va le trancher, quand on va le manger, qu'il soit bien lisse, que ce soit pas des œufs brouillés ou que ce soit qu'il y ait plein de trous dedans. C'est assez désagréable et c'est pas joli à l'œil. Qu'est-ce que c'est beau une crème caramel ou un beau flan de légumes qui a pas bouilli et qui est vraiment lisse et qui est tremblotant. Voilà, ça
c'est bon une crème brûlée. Hein. J'aime bien ça.
Une crème brûlée, c'est bon. Une crème catalane. Vous avez déjà mangé des vraies crèmes catalanes ?
Non, c'est quoi ?
Alors, les crèmes catalanes, c'est une crème légèrement liée. C'est un peu comme une crème anglaise, légèrement liée avec de la cannelle et de l'orange et que vous allez brûler à la fin comme une crème brûlée. Et ça, c'est... Enfin, moi, j'adore ça.
Oui, ça s'appelle comme ça parce que ça a été inventé plus ou moins en Catalogne. Ils mangent ça le jour de la Saint-Joseph.
Ouais.
Ils en font aussi en Sicile et au Baléares.
Oui.
Ouais. Il y a aussi la crème avec de la semoule. Est-ce que c'est du flan, ça ? Non.
Non, là, non. On n'est plus parti sur le flan.
Bon, alors restons sur le flan.
Un petit pot de crème au chocolat des grands-mères, c'est une base d'appareil à flan et c'est cuit comme un flan.
Ah ouais ?
Ah bah oui. Puis bien sûr, la tarte au flan.
Salé, hein, monsieur, voilà, je vous
la tarte au flan. Mais non.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut donner Là, on va donner une recette où on peut prendre le temps. Comme ça,
je vais vous donner, comme on arrive sur la saison des asperges et tout ça, un bon flan d'asperges.
Ah bah
vous allez pouvoir accommoder avec un beau petit carré d'agneau, juste cuit rosé et tout ça.
C'est toujours la saison, l'agneau, monsieur.
Oui, on est en plein dedans.
Donc, flan d'asperges.
Voilà, un flan d'asperges. Alors, vous allez prendre des asperges vertes, blanches, vous pouvez mélanger les deux, hein, suivant ce que vous trouvez, suivant ce qu'il y a sur les étals. Les étals. Vous allez les cuire entières, comme quand vous faites vos asperges, hein, épluchées, cuites. Vous allez garder les têtes d'asperges, les pointes, que vous allez accommoder à côté, juste réchauffer avec un tout petit peu d'huile d'olive, un tout petit peu de sel, et avec les queues d'asperges qui sont cuites, vous allez les mixer, ces queues-là. Vous allez en récupérer, admettons, pour 300 grammes de cette purée d'asperges que vous avez simplement mixée au blender. Vous allez rajouter un œuf, vous allez rajouter un jaune d'œuf pour 300 grammes de purée, et puis 100 grammes de crème, un peu de sel, un peu de poivre. Ça, vous allez bien mélanger, vous allez mettre dans des petits ramequins, ce qu'on appelle des moules à darioles, ou même, pourquoi pas, dans des moules thermoformés en silicone. Mais c'est pas ma préférence, mais voilà. Vous mettez ou même dans une tasse à café. Hein, et après, vous allez mettre au bain-marie. C'est-à-dire que vous allez prendre une plaque haute qui va dans votre four. Vous allez mettre de l'eau. Vous allez mettre vos tasses, de l'eau déjà chaude, hein, de la bouilloire où vous faites bouillir un petit peu d'eau. Vous mettez au fond toujours un papier, soit un journal, soit du papier absorbant que vous allez un tout petit peu déchirer. Vous mettez ça au fond pour éviter que les tasses ou les ramequins bougent et se cognent entre eux.
Ah oui.
Et ça va éviter aussi que l'eau que vous allez mettre dedans boue trop vite. Et vous allez mettre donc vos ramequins, vous allez mettre votre appareil à flanc aux asperges dedans. Vous pouvez rajouter un petit peu de morceaux d'asperges. Vous pourrez faire ça avec n'importe quel autre légume, hein, dans les mêmes proportions. Et vous allez cuire ça dans un four à 160 degrés pendant un petit quart d'heure, comme ça au bain-marie. Vous allez vous tapoter un petit peu la surface de votre tasse ou de votre ramequin. Et il faut que ce soit tremblotant, il faut que ce soit pris, mais tremblotant. Et après, vous servez soit directement dans la tasse, soit vous les démoulez avec vos pointes d'asperges et un beau carré d'agneau.
On aime bien ça, hein.
On adore. Ouais.
C'est pas mal. Hein. Vous pourrez nous redire ce que c'est un carré d'agneau dans un instant, parce que je suis un peu largué là. Et puis il faudra qu'on fasse un flan sucré aussi.
Ah oui.
Hein. Et puis vous nous direz ce qu'on hein, avec le flan.
Oui, d'accord.
Enfin, le flan là.
Le flan
aux asperges.
Oui. Hein,
dans un instant, voilà, vous restez avec nous sur France Bleu, on prend notre cours de cuisine du vendredi avec monsieur Edouard notre boucher, Clotilde Mangin notre sommelière, monsieur Philippe Larbel notre chef. On parle des flans. On a fait un flan d'asperges. Flan d'asperges avec un carré d'agneau. Monsieur Edouard notre boucher, c'est quoi un carré d'agneau?
Alors le carré d'agneau, c'est un morceau qui est pris dans le train de côte, vous savez, sur l'agneau en fait, on a tout le dos en fait, c'est des trains de côte.
Ah bah, ils ont un paquet de côtes les agneaux,
ouais,
tu veux dire.
Ouais, oui, hein. Il y a 13 côtes sur un agneau et 26 parce qu'il y en a 13 de chaque côté.
D'accord.
Donc c'est vraiment quand on est sur le gigot, on arrive sur les côtes filées, donc le baron d'agneau, où là il y a pas de côtes, c'est des vertèbres plates. C'est les côtes filées et après on va arriver sur les côtes premières et les côtes secondes. Et après, on va vers le collier d'agneau, plus on va vers la tête. Alors, le carré d'agneau, en général, c'est vraiment pris dans les côtes premières. C'est les 6-8 côtes premières qu'on trouve sur le carré d'agneau. Et donc, chez les restaurateurs, ils les servent en individuel. Donc, ils font des petits carrés de 3 côtes. Et sinon, à la maison, quand on est plus nombreux, si on est 2, 3, 4, on les laisse en carré droit. Et puis après, au moment des fêtes de famille ou les week-ends, quand on est plus nombreux, on peut aussi faire une couronne d'agneau. Alors, c'est très joli. Moi, j'aime moins pour la cuisson. Parce que, en fait, ça cuit mal parfois au milieu, la viande est moins rôtie. Parce que ce qui est bon dans l'agneau, c'est qu'il y a un peu de gras sur la peau, surtout dans le carré de côte première.
Il n'y a pas que moi qui aime le gras.
Ah ouais, mais c'est bon. Et moi, j'aime bien.
Parce c'est bien d'en avoir un peu, même s'il ne faut pas aller jusqu'à la béchamel. Hein.
Non, quelque chose de moins lourd, quand même. et moi, je le fais rôtir, le carré d'agneau, avant de le passer au four. J'aime bien le faire rôtir, parce que sur ce carré de côte d'agneau première, il y a toute la partie gras qui est sur le dessus. Il y a l'os en dessous. Et là, vous le passez un petit peu à la poêle pour bien le faire rôtir avant pour que le gras soit un peu bruni, comme ça, un peu doré.
Pour qu'il fonde déjà,
et qu'il nourrisse la viande. Et après, vous le passez au four, et donc vous faites un carré d'agneau. En général, dans les agneaux qu'on a en ce moment, chez les agneaux de boucher, des agneaux qui font de 20 kilos, on compte 2 côtes par personne. Donc si on est 4 personnes, on va prendre un joli carré d'agneau de 8 côtes. Et donc on demande à son boucher de le préparer. Donc nous, on va le pré-tracer, c'est-à-dire qu'on va commencer à le scier entre chaque os. On va dégager le manchon en haut, comme ça, une fois qu'il sera cuit, il n'y aura plus qu'à descendre entre chaque os, et ça fera des belles petites côtes.
C'est pas mal, hein.
Et ça, c'est vraiment, ça se mange bien rosé à l'intérieur, c'est juteux, c'est délicieux.
Qu'est-ce qu'on pourrait se faire avec ça, Clotilde Mangin, en rappelant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Clotilde, qui est sommelière chez Vinet Tartine à Nancy.
Oui, on a déjà parlé d'agneau la semaine dernière. Mmh. On en a parlé de canard aussi.
Vite fait, ouais.
Et là, j'avais plutôt envie d'aller sur un vin plus fin, plus léger, plus délicat. Je serais partie en Bourgogne sur un Pinot Noir, sur peut-être une appellation un petit peu choisie. Allez, on peut se lancer un Gevrey Chambertin. Voilà, parce que c'est quand même une pièce noble, l'agneau, surtout préparé comme ça. Donc on va aller chercher la finesse, la délicatesse. Édouard parlait de jus. Mmh. C'est des vins qui vont garder un joli éclat avec du jus, sur des petites notes de fruits rouges, la framboise, la fraise un petit peu écrasée. Les tanins sont juste délicats, ça vient se poser, c'est tout poudré sur la bouche, c'est très agréable. Voilà, je pense qu'il faut aller chercher un Pinot Noir avec un petit peu de style quand même.
Une petite question vite fait comme ça, un Gevrey Chambertin, c'est des noms qu'on connaît. Oui. Évidemment, combien ça coûte une bouteille à la louche?
Alors, Gevrey Chambertin, ça peut aller chercher vite cher, entre 60 et 80 euros la bouteille chez
la
le caviste.
La bouteille, ouais. Et ça se met à vieillir?
Ah oui, ce sont des vins qui se gardent très très bien, effectivement. Je trouve ça important de garder les vins, mais je dis souvent que quand le vigneron offre les vins à la vente, c'est qu'en général, il est confiant dans ce qu'il y a dans sa bouteille et que finalement, le message du vin peut être délivré. Après, c'est sûr que les plus beaux Gevrey, c'est ceux qui prennent 7 à 10 ans de cave quand même. Hein.
Ah ouais,
pas se le cacher.
Oui, donc il faut être patient.
Oui, il faut être patient. Bah, le vin, c'est vraiment une école d'humilité, de patience. Hein, je le dis assez régulièrement. Après, si vous avez des jolis gevrets qui ont 4 ans dans la cave, ouvrez-les. Hein.
Ça vaut le coup quand même.
Mais hein. Oui.
Merci beaucoup, Clotilde. On revient dans un instant. On cuisine. On prend notre cours de cuisine sur France Bleu Lorraine. On est donc dans les flancs.
Oui.
Voilà, avec, enfin, c'est le sujet du moment.
C'est le sujet, hein, ouais, c'est le thème, ouais.
Philippe Larbel, le chef et démonstrateur de la maison de Buyer, maître cuisinier de France, qui a choisi la thématique sur la conversation WhatsApp. Et on a tous dit oui, comme d'habitude. Voilà. Philippe.
Enfin, je remarque, vous avez répondu cette fois-ci.
C'est vrai, là, j'ai répondu. Ouais, j'ai fait une suggestion. Oui, alors, le flan, on a vu que c'était des œufs, du lait.
Voilà.
Voilà, ça c'est le principe. Après, on peut faire sucré, salé.
Voilà.
On a fait salé avec les asperges, on sait faire un petit carré d'agneau avec ça.
Alors, la recette que je vous ai donnée sur les asperges, vous pouvez faire avec d'autres. Vous avez parlé de courgettes, en saison de courgettes, vous ferez la même chose.
Moi, j'adore flan de courgettes, j'adore. Mmh. Hein. Mmh. C'est bon, ça. Hein.
Ça, c'est super bon.
Ah ouais, ouais, ouais. Donc, flan de courgettes, vous pouvez. Tomates, il y a peut-être tomates, c'est un peu embêtant, non?
Bah, il faut les confire un petit peu avant, c'est-à-dire les sécher au four. Sinon, il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau, sinon après, ça ne va jamais tenir, quoi.
Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore?
Il y a plein de choses qu'on n'a pas fait.
Peut-être on peut continuer un peu sur le salé ou on passe au sucré. Qu'est-ce que vous préférez? Ben,
on peut vite fait faire un tour sur le salé. Après, ce qui est dans l'appellation flan, mais qu'on appelle souvent biscuit ou gâteau, c'est-à-dire que vous allez prendre votre appareil à flan, enfin voilà, votre lait, vos œufs. En général, c'est 2 œufs, un jaune pour 300-400 grammes de lait.
2 œufs, un jaune pour 300-400 grammes de lait.
Voilà, c'est à peu près la proportion. Ouais. Et après, vous pouvez faire des gâteaux de poisson, des gâteaux de, par exemple, simplement avec du thon en boîte cuit que vous égouttez, que vous allez bien égoutter, que vous allez émietter avec. Vous allez rajouter un peu d'herbe, un peu d'assaisonnement comme vous aimez.
Que je vais mettre dans la migaine.
Vous mettez ça dans votre thon et après vous versez votre migaine et vous mettez ça dans un moule à cake. Et après vous allez cuire au bain-marie, vous allez laisser refroidir un petit peu et manger tiède ou froid. Voilà, c'est un flan, mais on appelle ça plutôt gâteau, parce que c'est plus en gâteau ou biscuit.
Mais c'est sur le principe que le flan, c'est des œufs, du lait, voilà. C'est un flan.
C'est un flan. Un flan, et vous pouvez même les faire individuels sur une salade servie tiède, comme ça. Ça peut être très bon. Donc, il y a plein de... Une fois que vous avez cette base d'œufs d'appareil à flan, vous pouvez les faire un petit peu, et le principe de cuisson au bain-marie.
Il y a un truc qui est pas mal dans le genre sucré, comme ça, moi j'ai déjà goûté ça, c'est un peu le même truc que vous dites, sauf que c'est de la noix de coco.
Oui.
Et je sais pas comment ils font leur coup, mais il y en a plus en bas qu'en haut.
Ah bah ça, c'est parce que la noix de coco étant plus lourde que, enfin une fois que les œufs et la crème cuit, ça descend au fond. Et des fois, ce qui est bon, c'est que
bon,
ça va
ça,
un petit peu...
Quand tu mets ta cuillère, ça...
Avec le jaune d'œuf, le sucre qui est tombé au fond, oui. Parce qu'on a un peu mal mélangé, ça fait quelque chose d'un petit peu, pas caramélisé, mais un petit peu plus épais dans l'ensemble, et c'est pas mal.
Et d'ailleurs, comment on fait pour faire un flan au caramel? Alors, un flan, tu vois bien.
Une crème caramel ou un flan caramel? Flan,
ils sont vendus par
comme
4.
La marque. Il y a un président de la République.
Bon, le plus dur,
promu la marque sans faire exprès.
Le plus difficile, c'est la languette, hein, Jérôme.
Le plus difficile, c'est de remettre la languette à chaque fois.
Ah ouais? Ah oui, c'est vrai.
Bah oui, parce que si vous faites un trou dans votre moule.
Pourquoi qu'ils mettent des languettes?
Eh ben, c'est pour faire une bulle d'air.
Pour faire une bulle d'air, que ça démoule.
Ah d'accord.
Après, si.
Je rappelle que ça marche pas pour les préservatifs. Ne faites pas la même chose. C'est pas une bonne idée. Hein.
Oui.
Alors du coup, comment je fais? Je fais mon flan aux œufs.
Vous faites votre caramel déjà à l'avance.
Je commence par le caramel. Oui.
Sucre, un tout petit peu d'eau, 300 grammes de sucre, 50 grammes d'eau par exemple. Vous portez à ébullition, vous faites votre caramel.
Donc on mélange avec la cuillère en bois.
On évite de mélanger. Toujours on évite de mettre quelque chose, un ustensile ou quelque chose.
Il faut laisser faire. Casserole. Quoi.
Voilà, ouais. faut laisser faire, faut surveiller.
Oui. Non mais c'est dangereux le caramel, rappelons-le quand même. Ouais, ouais.
Les idées, enfin voilà, parce qu'on parle pas de viande, ça y est, il va me désinguer ma crème caramel.
Bah non, pourquoi?
Eh ben si. Enfin bon, avec le doigt.
Ah ouais, non mais tu sais comment il est.
Donc une fois que votre caramel est blond, vous allez le verser au fond de votre plat. ouais. de votre ramequin, blond, enfin la clair, couleur quoi. Caramel. Ouais. Okay. Faut pas le faire trop foncé parce qu'après il sera trop puissant. Plus d'accord. Un caramel est foncé, plus il est puissant.
C'est bon à savoir.
Donc vous mettez au fond de vos ramequins, ça va refroidir. En attendant, vous allez préparer votre appareil à flan. Donc là, le mieux, c'est de faire chauffer le lait avec de la vanille. Vous faites bouillir votre lait, votre vanille. Vous allez prendre là des œufs entiers, 6 œufs entiers pour 1 litre de lait, par exemple.
Ouais.
Vous allez mettre 150, 160 grammes de sucre.
Mm-hmm.
Vous mélangez vos œufs avec votre sucre. Vous versez votre lait bouillant dessus avec la vanille. Vous allez mettre sur votre caramel qui est un petit peu durci. Vous allez cuire ça au bain-marie, donc comme tout à l'heure, les autres flans, un papier au fond, de l'eau chaude. Il faut que ce soit à 3/4 de la hauteur de vos ramequins. Vous allez glisser ça au four à 180 degrés pendant une trentaine de minutes suivant la grosseur. Ce qu'il faut, comme j'expliquais en début d'émission, faut pas que ça boue, parce que sinon après vous avez une mauvaise texture. Et après vous allez les laisser refroidir un petit peu à température ambiante et après les mettre au frigo. Et ces flans-là, si vous les démoulez, si vous les faites le matin pour le soir, votre caramel, il va être dur. Il va falloir les laisser 2-3 jours pour que votre caramel soit liquide, hein, parce qu'il va reprendre l'humidité, il va se liquéfier. Et après, voilà, c'est comme ça que vous avez vos fameux meilleurs que les industriels. Et comme on peut pas mettre de languette, de faire deux trous et mettre de languette, en fait, avec un couteau, vous allez simplement bien passer autour de votre ramequin ou de si vous l'avez fait en gros pour pas faire des individuels. Et d'un côté, avec votre couteau, vous allez tout au fond jusqu'à toucher le caramel et vous allez légèrement appuyer pour que l'air puisse passer et vous fasse une bulle d'air au fond au niveau du caramel. Vous retournez. Et là, ça se démoule.
Qu'est-ce que c'est bon, ça. Hein, oh là là, on adore. Hein. On revient dans un instant. On cuisine les flans dans notre rendez-vous culinaire. Le petit cours de cuisine du vendredi, c'est sur France Bleu. Mesdames, messieurs, je rappelle que nous avons nos experts avec nous. Nous avons M. Edouard. On vous a fait le carré d'agneau. Ouais, M. Edouard, notre boucher. Merci ou un chez Central. On a Claudine, notre sommelière. Tous les deux, votre choix du moment dans un instant. Juste avant, Philippe Larbel est avec nous. Philippe, je vous rappelle que vous avez pulvérisé ce qu'on appelle le timing.
Oui, que la direction m'en excuse.
Voilà, donc ce serait bien qu'en 3 minutes, on ait une petite idée de recette. 3 minutes pour vous, ça, mesdames, messieurs, je ne sais pas comment on pourrait expliquer ce que c'est 3 minutes. C'est beaucoup ou pas beaucoup, hein. Pas beaucoup, 3 minutes pour expliquer un truc.
Oui, non, mais ça va aller. Des fois, je vais un peu trop dans les détails. Mais
non,
c'est
c'était
monde...
bien parce qu'on a une recette complète. Hein, parce voilà. Que franchement, ça reste quand même technique à faire le flan aux œufs.
Ben, le plus technique, comme je disais, c'est surtout la cuisson. Mmh. La cuisson pour qu'elle soit parfaite, pour qu'elle soit lisse et la bonne texture. Si vous cuisez pas assez, ça va être liquide, ce sera pas bon. Et si vous cuisez trop, ben ce sera granuleux et ce sera pas bon non plus.
Et là, ce que vous voulez nous faire au chocolat, c'est l'équivalent du truc Alza?
Voilà, ouais.
Bon, on peut les citer parce que pareil, ça a été créé en Lorraine. Hein. Alors bon, je pense qu'ils sont très lorrains maintenant, mais enfin non. Ils sont toujours à Ludres.
Ils ont changé
donc
de
on
côté
les salue.
De
voilà. Moi, j'en ai fait beaucoup pendant le confinement. Mmh. C'était pratique, un peu de lait, un peu voilà. Et je regardais, c'est pas trop gras.
Non.
Parce que j'étais au moment où je faisais gaffe à ma ligne. Et ben, franchement, t'en as moins que dans les yaourts.
Du gras. Ouais.
Ouais. Donc là, on va le faire nous-mêmes. Excusez-nous, hein, les. Hein, Philippe.
Oui, voilà.
Donc bah, c'est pas compliqué, alors, du coup.
Non, on va faire chauffer 1 litre de lait.
D'accord, ouais.
En attendant, on va blanchir 10 jaunes d'œufs.
OK.
Avec 250 grammes de sucre.
Quand vous dites blanchir, c'est dans les cuits.
On met le sucre avec les jaunes d'œufs.
Ah, voilà.
Et on fouette jusqu'à ce que le mélange blanchisse.
D'accord.
On va rajouter 50 grammes de cacao non sucré.
Ouais.
Dans ces jaunes d'œufs blanchis avec le sucre.
On blanchit à froid.
Okay. Ensuite, une fois que le lait a bouilli, on va le verser dessus. On va mélanger. On va bien mélanger.
Ouais.
Et ensuite, on va les mettre dans nos ramequins, dans des tasses, dans ce qu'on veut. On va cuire toujours pareil à 180 degrés pendant, suivant la grosseur, 20-40 minutes, hein, suivant la grosseur du moule.
Ouais.
Vous laissez refroidir. Moi, j'aime bien les faire au moins un jour à l'avance pour qu'ils soient bien froids.
Mmh.
Et après, vous les mangez. Et là, ben, vous avez des vrais bons pots de crème.
Ça, c'est vachement bon. Hein.
Ouais.
Ah là là, on aime bien. Et le fait que ça boue le lait, c'est ce qui va lui donner de l'épaisseur. Pourquoi on le fait bouillir? Parce qu'a priori, maintenant, il est sain.
Oui.
Il est toujours sain, mais je veux dire...
C'est pas un problème, mais c'est le fait de le faire bouillir, c'est qu'on va démarrer déjà à chaud dans le four. Votre appareil serait déjà tiède, donc ça va cuire plus vite et ça va moins avoir tendance à bouillir trop vite. Si vous mettez à froid et que vous laissez trop longtemps dans le four, vous n'aurez pas une bonne texture.
Merci Philippe. La maison de Buyer, qu'on remercie aussi, qui nous prête Philippe Laruelle, maître cuisinier de France. On revient dans un instant avec les choix de nos experts dans le cours de cuisine du vendredi sur France Bleu. C'est le dernier moment de notre émission, une émission qui, je le rappelle, est une émission sans se prendre au sérieux, qui peut être très utile quand vous vous lancez dans la cuisine ou pour repotasser votre cuisine. Le petit cours de cuisine du vendredi avec nos experts culinaires. On a fait les flans rapidement. La tarte aux flans, c'est la même chose, Philippe Laruelle.
La tarte aux flans, c'est une base de crème pâtissière, sauf qu'on va utiliser les œufs entiers au lieu des jaunes.
Ah, on met tout l'œuf. D'accord.
On met tout l'œuf, donc on va mettre un petit... 3 œufs, 180 grammes de sucre qu'on va mélanger. On rajoute 80 grammes de maïzena. Dessus, on va rajouter 1 litre de lait bouillant qu'on aura parfumé à la vanille avec une ou deux gousses de vanille
grattées. Qu'on fait infuser dedans. Hein.
Voilà, vous reportez à ébullition comme une crème pâtissière. Quand ça bout, vous mettez sur votre fond de tarte brisé, feuilleté. Ça dépend des goûts. Et puis vous allez cuire ça au four une quarantaine de minutes à 200 degrés. Et là, vous laissez bien refroidir et vous avez une tarte au flan.
Ça, c'est bon, hein. Monsieur Edouard, notre boucher, le petit choix du moment du boucher. Alors, ne refaites pas l'agneau,
Ça fait déjà 15 jours qu'il nous colle son agneau, là. Alors, il a des restes de pâques, il sait pas quoi en faire.
Alors, je voulais parler de l'agneau parce que ça continue.
Oui, c'est ça. Ça s'arrête jamais.
Mais c'est bientôt la Pentecôte, il va nous parler du veau pendant 3 semaines encore.
Après. Ouais, c'est ça. Ouais, donc, du coup, on va aller sur les joues de porc cette semaine.
C'est très demandé, il paraît maintenant.
Ouais, c'est très, très demandé. C'est des plats qui sont un petit peu intermédiaire, quand on est entre deux saisons comme ça, on n'a plus vraiment envie de plats qui font vraiment hiver et puis on n'est pas sur les plats d'été. Et la joue de porc, c'est vraiment super bien. Confit, c'est délicieux.
Alors après, c'est filandreux, non ?
Ça va être un petit peu filandreux, ça va être surtout très moelleux en fait. Hein. Donc ça, vous savez, c'est des petits morceaux comme ça qui sont ronds avec 2-3 cm d'épaisseur.
4-5 cm de large et 3 cm d'épaisseur.
Oui, c'est ça exactement. Donc on les pare bien, on enlève un peu pour vraiment garder juste la petite noix, on enlève toutes les parures autour.
Et ça, vous faites... Parer dans son métier, c'est enlever le gras. Hein,
ouais, enlever le gras, enlever des fois même un petit cartilage ou quelque chose comme ça qu'il peut y avoir au moment de la désosse. Mmh. Et vous faites bien retirer ça dans n'importe quel, et puis vous laissez mijoter. Alors après, il y a plein de recettes que le chef peut nous donner. Mmh. Et il faut que ça cuise minimum une heure et demie. Mais si ça cuit 2 heures, 2 heures et quart, c'est pas gênant, ça va faire un espèce de petit confit. Et ça, vous pouvez faire un pulled pork, mais mec, c'est un peu la mode des pulled pork en ce moment. Et ça, ça confit, c'est vraiment extra.
C'est
ça, mange à la cuillère.
En 2 minutes, Philippe.
Bon, c'est de la viande cuite avec un petit peu d'épices, des concentrés de tomates, du ketchup, des choses comme ça.
Un poulpe au jambon.
Et puis c'est
pulled pork. Je tiens pour moi que je mette du poulpe là-dedans.
C'est très filandreux, avec un peu de miel. C'est un petit peu collant, un petit peu c'est régressif et c'est tellement bon.
D'accord, donc l'ajout de porc.
L'ajout de porc, très très bon morceau.
C'est mieux que l'ajout de bœuf, enfin, c'est pas la même chose en fait.
Ça va être, alors c'est le même morceau, hein, mais ça donne pas du tout le même rendu.
C'est plus facile à cuire l'ajout de porc que l'ajout de bœuf, parce que l'ajout de bœuf va être rapidement sèche, et voilà. Alors que l'ajout de porc, même si c'est surcuit, c'est pas un problème.
C'est un peu comme le rôti de porc, hein. Vaut mieux se lancer dans le rôti de porc par rapport au rôti de bœuf. Hein. Oui. Si ça cuit plus longtemps, c'est pas trop grave, on va dire.
Ah oui, c'est sûr, le rôti de bœuf, c'est vraiment une cuisson hyper précise. Il faut vraiment, c'est à la minute ou deux minutes, près. Le rôti de porc, ça peut attendre.
Moi, j'appelle mon père au moins 5 fois quand je mets le rôti de porc. J'ai toujours peur de le sortir au dernier moment. Clotilde, notre sommelière, qui va nous parler de son petit choix du moment pour cette mi-avril, hein, déjà.
Mais oui, mi-avril, ça y est, on est officiellement au printemps.
Mais oui.
Alors, peu importe la météo, hein, mais disons qu'on aime toujours boire des vins qui présentent une jolie floralité.
Ce que j'adore, c'est peu importe la météo, parce que l'émission est enregistrée, vous savez. Donc on est le 14 mars et personne ne veut se lancer sur le temps qui fera le 12 avril. Donc on prend toujours
cet intermédiaire.
C'est bien qu'on vous dise quand même la vérité. Voilà, on serait le jour même. Voilà. Donc un petit vin floral.
Oui, moi j'avais envie d'aller chercher de la floralité, mais rester sec. Et pour ça, on a une jolie cuvée en Alsace. Je pense à la maison Muret à Rouffach. Si vous allez vous promener, c'est un très joli domaine. Donc on est à quelques encablures de Colmar, entre Colmar et Guebwiller. Et ils font un muscat de la cuvée Chapelle, qui est vraiment très très joli parce qu'on a cette élégance du muscat. En plus, on a parlé d'asperges, on sait que c'est le match parfait. Moi, j'aime bien le Sylvaner sur les asperges. Mais pour ceux qui sont encore des adeptes du muscat sur les asperges, allez sur un muscat sec qui présente une grande acidité, mais pas l'acidité qui pique, l'acidité qui structure, l'acidité élégante qui va vraiment et lancer le vin. Et avec cette petite note florale sur le muscat, c'est merveilleux.
Ça donne envie, hein. Mmh. Merci Clotilde,
avec plaisir,
franchement. Rappelez-nous le nom du domaine.
Domaine Muret à Rouffac.
Voilà, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Merci à vous trois chaleureusement.
Merci à vous, Jérôme.
Vous passez un très bon moment. Je rappelle qu'on avait autour de la table Clotilde Mangin, que vous venez d'entendre, elle est sommelière chez Vin et Tartine, le caviste, notamment rue des Ponts, hein, au début de la rue des Ponts à Nancy, monsieur Edouard au marché central de Nancy, et Philippe Larvel, qu'on va rendre à nos Vosges, qu'on salue chaleureusement, du côté du Val d'Ajol pour Debuy, et puis du Valtin, hein, évidemment, la maison Larvel que tout le monde connaît. Merci à vous.